Raphaël, c'est clair qu'on commence cette chronique aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein ce week-end, trouvé mort dans sa cellule. Les réactions et les théories continuent de déferler aux États-Unis. En fait, je pense qu'il y a autant de théories et de réactions qu'il y a de personnes aux États-Unis. Même ici, hein, on a passé le week-end à spéculer. Alors, parle-nous de ce que toi, tu sais, de ce que tu as pu constater.
Ce que je sais, c'est que c'est la folie carrément aux États-Unis par rapport à ça. Et la réalité, c'est que ce type-là avait des amis extrêmement bien placés des deux côtés du spectre politique. Et donc, quand il se retrouve mort, suicidé et ou assassiné, il faudra voir lorsqu'on aura vraiment une confirmation, si un jour on en a une. Il y a des suspects, pour les amateurs des théories du complot, des deux côtés du spectre politique américain. Et donc, le conspirateur souvent en chef, le plus grand adepte des théories du complot, le président Trump, a partagé sur son compte Twitter au courant de la fin de semaine une théorie du complot selon laquelle Epstein aurait été assassiné pour faire taire ce qu'il avait à dire sur les Clinton. Et de l'autre côté, tu as des anti-Trump qui, eux, depuis la fin de semaine, spéculent ouvertement à l'effet de quoi Donald Trump aurait fait commander le meurtre d'Epstein parce que lui et Epstein étaient copains.
Ils ont déjà été amis. Quoi qu'il ait dit, ben, j'ai jamais pensé trop en bien de lui, là, ou je ne sais trop.
Je n'étais pas un fan.
Ça, excuse ma pauvre traduction.
Oui, oui. Mais il reste que le type était quand même allé à Mar-a-Lago à plusieurs reprises. Donc, il y avait des amitiés très, très, très privilégiées.
Mais une fois qu'on dit ça, ouais. Raphaël, écoute, le gars est dans une cellule, dans une prison très sécuritaire à Manhattan.
Prison fédérale.
Oui. C'est là qu'était d'ailleurs El Chapo. Mm-hmm. Okay. Donc, on ne parle pas d'une petite prison légère. Là. Il est seul dans sa cellule, il ne devrait pas être seul.
Exact.
Enfin, il y a plein de règlements qui ont été contournés. Raconte-nous.
Je me permets juste de renchérir sur ce que tu dis, parce que c'est plus que simplement il était seul alors qu'il ne devait pas l'être. Il n'était pas seul. Il avait quelqu'un avec lui dans sa cellule et l'autre personne a été... on a accepté qu'elle soit transférée à une autre cellule. Donc, il y a eu un changement. Déjà, à la base, c'est remarquable. L'autre changement également remarquable, c'est que ce type-là devait être surveillé normalement selon...
30 minutes.
Exactement. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce qui avait été qualifié de tentative de suicide il y a moins d'un mois.
OK. Et là-dessus, ce qui est particulier, c'est que oui, on a retrouvé des traces autour de son cou il y a une dizaine de jours, mais nulle part est-il question de ces marques venaient de quoi? Est-ce qu'il y avait des draps accrochés au plafond? En principe, non, il n'est pas supposé y avoir de crochets là, pour se pendre dans une cellule comme ça à haute sécurité. Donc, c'est mystérieux. Est-ce qu'il a payé quelqu'un pour lui fournir ce qu'il fallait, puis ensuite aller enlever ce qui aurait servi à... au suicide, trait d'union meurtre, ou on ne sait trop?
Il y a tellement d'anomalies, Marie-Claude, dans cette affaire-là, qu'à la fois le FBI, donc la police fédérale américaine, et le département de la justice, l'équivalent du ministère de la justice fédérale aux États-Unis, ont annoncé qu'ils lançaient une enquête sur la mort de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas normal. Donc, on n'a pas besoin d'être un conspirationniste, d'être un grand amateur des théories du complot pour tout simplement constater qu'il y a quelque chose qui ne sent vraiment pas bon dans cette affaire-là. Et rappelons le fait que le type approchait les 70 ans, faisait face à potentiellement un demi-siècle en prison.
Oui, oui, ça se peut très bien que lui-même ait décidé, genre, je ne veux plus ça, et payer des gens pour l'aider à faire ça.
Possiblement. Et ce qui est également possible, sans tomber encore une fois dans la spéculation, c'est que, considérant le Rolodex que ce type-là avait et les révélations qui sont devenues publiques dans les heures qui ont précédé sa mort, à la toute fin de la semaine dernière, je te donne un exemple. Ce qu'on a appris, c'est que son ancienne copine était également accusée d'avoir fait du trafic sexuel avec lui et qu'il y avait des noms extrêmement importants qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Et je vais me permettre de t'en donner quelques-uns parce qu'ils sont devenus publics. Donc, il n'y a personne là-dedans qui a été reconnu coupable devant un tribunal, mais c'est assez sérieux pour que leur nom ait été mentionné au tribunal. On parle notamment de Bill Richardson. Qui est Bill Richardson? Ancien secrétaire américain à l'énergie au sein de l'administration Clinton, ancien représentant aux Nations Unies des États-Unis et ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, a fait deux mandats candidat présidentiel. George Mitchell, l'ancien leader démocrate de la majorité au Sénat. Écoute, ça, c'était le sénateur le plus influent, le plus puissant des 100 au sein du Sénat américain et le prince Andrew britannique.
Alors,
là, j'en ai donné trois. Là. La liste est longue. Fait, imagine
c'est sûr, parce que ça s'est fait sur des années. Puis on parle de filles de 14 ans dans certains
cas. Exactement. Ça sent pas bon.
Ça sent pas bon. Ça, c'est terriblement vrai. En tout cas, ça a été un choc pour tout le monde quand Absolument. On a su ça. Pas choc, oui.
Choc,
oui,
pas une choc. Peine, mais choc, choc. Dans oui, le sens voilà. choc.
Très bien ouais. dit. Autre fin de semaine, autre lourd bilan à Chicago.
Je te mentionne quelques mots là-dessus, Marc-Claude, parce qu'on va passer encore plusieurs jours à parler d'El Paso, de Dayton, des fusillades de masse. À peu près personne ne parle qu'encore une fois à Chicago, en fin de semaine qui vient de se passer, comme la fin de semaine précédente. On a eu 4 morts, plus de 40 personnes qui ont été atteintes de balles. 4 personnes mortes à cause des armes à feu ou par armes à feu, plus de 40 blessés et ça passe presque totalement sous le radar. C'est rendu normal.
Imagine si c'était ici, là, ça serait la une de tous les journaux, on ne parlerait que de ça.
Exact.
Et on n'en parle même pas.
À peine.
C'est très triste. Et finalement, ben, Justin Trudeau fait réagir Donald Trump.
Écoute, ça, il faut finir là-dessus parce que c'est aussi drôle que c'est surréel. Donald Trump, en voyant la couverture d'un magazine à sa première année sur la Maison-Blanche, sur laquelle se trouvait Justin Trudeau avec le titre suivant, l'anti-Trump, ça qualifiait Justin Trudeau à l'époque, aurait déchiré la couverture, aurait écrit avec un Sharpie, avec un stylo, une remarque dirigée à Justin Trudeau, et je te paraphrase, il aurait dit quelque chose du genre « j'espère que c'est pas vrai », et aurait envoyé la couverture de magazine déchirée sur laquelle il avait écrit ça à l'ambassade canadienne. L'ambassadeur canadien, ou plutôt le personnel d'ambassade canadienne, ne pouvait tellement pas croire que ça venait vraiment de la Maison-Blanche qu'ils ont fait des vérifications avant d'acheminer ça à Ottawa en se disant, ça se peut comme
la
pas que le président des États-Unis.
Oui, c'est de la diplomatie de garderie.
Oui, ben, c'est ça. Je te dirais même de CPE. Donc, c'est ça. Tout ça pour te dire que là, ça vient juste de sortir dans un ouvrage canadien, en fait, qui relate les premières années au pouvoir de Justin Trudeau. Donc, il y a une composante là-dessus américaine, évidemment, sa relation avec le président américain. Mais écoute, as-tu déjà vu ça et penses-tu vraiment revoir ça de ta vie, une relation entre un premier ministre canadien et un président américain de la sorte?
C'est non, incroyable. Et je peux imaginer la tête de Justin Trudeau face à ça.
En effet.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci.
Et voilà, ben on s'arrête le temps d'une pause et des nouvelles de retour tout de suite après. À tantôt.